Hello, brothers and sisters.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission mondiale pour les séminaires et instituts de religion depuis le théâtre du centre de conférence de l'Église à Salt Lake City en Utah. Je m'appelle Richard Hawks, je suis administrateur adjoint au sein des séminaires et instituts de religion. Nous souhaitons la bienvenue au commissaire du département d'éducation de l'Église, Kim Clark des 70, qui préside cette réunion. Il est accompagné de sa femme Sue. Deux membres du conseil d'éducation de l'Église sont aussi avec nous aujourd'hui. Linda Burton, présidente générale de la Société de secours. Et Bonnie Oscarson, présidente générale des jeunes filles, et son mari Paul. Sont également présents sur l'estrade Tad Callister, président général de l'école du dimanche, et sa femme Cathy, Rosemary Wixom, présidente générale de la primaire, et son mari Jack, Sœur Carol McConkie, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, et son mari Oscar, Mark Woodruff, assistant du commissaire et secrétaire des conseils, et sa femme Peggy, Chad Webb, administrateur des séminaires et instituts de religion, et sa femme Christy, et d'autres administrateurs des séminaires et instituts de religion et leurs conjoints. D'autres membres des présidents généraux d'auxiliaires et d'autres invités spéciaux sont également présents dans l'assistance. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui se joignent à nous dans le centre de conférence et à chacun d'entre vous qui le font par satellite et l'Internet à travers le monde. Nous exprimons notre reconnaissance aux autres services de l'Église qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Nous commencerons cette réunion en chantant « C'est un rempart que notre Dieu », cantique numéro 35. Denis Norfeld, directeur de séminaire dans l'interrégion de l'ouest de la vallée du lac Salé, dirigera la musique. Douglas Gellman, un dirigeant du programme d'études en ligne au bureau central, nous accompagnera. Après le cantique, Teddy Bowden, un directeur du séminaire de l'interrégion de la vallée du lac Salé Ouest, fera la prière.
Notre cher Père Céleste, nous venons avec humilité devant toi en ce jour pour te rendre grâce pour de nombreuses bénédictions. Nous sommes particulièrement reconnaissants de la bénédiction que c'est d'être présent aujourd'hui. Et nous te prions de nous bénir afin que nous puissions écouter, apprendre par le pouvoir de l'Esprit et que nous sachions ce que nous devons savoir. Nous sommes reconnaissants pour nos dirigeants et nous te prions pour que ton esprit les inspire afin qu'ils disent ce que tu veux qu'ils disent. Père, nous sommes reconnaissants pour le privilège et la bénédiction de travailler avec la jeunesse. Bénis-les, s'il te plaît, dans leur vie, dans leurs décisions. Père Céleste, merci pour le président Monson et ses conseillers, le Collège des douze apôtres et tous les dirigeants de l'Église. Nous sommes reconnaissants d'avoir des prophètes vivants, des voyants et des révélateurs qui dirigent cette œuvre. Prions pour eux. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, pour sa vie, pour ses enseignements et son expiation. Nous te prions que ton Esprit soit avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you, Brother Bowden.
Merci, frère Bowden. Mes amis et collègues, au début de cette émission, j'invite chacun de vous à écouter attentivement, puis à travailler diligemment pour accomplir la vision des personnes chargées de nous diriger, qui se sont soigneusement préparées à nous enseigner aujourd'hui. Je vous promets que si nous le faisons, de merveilleuses choses arriveront. Je sais que cela est vrai. Cependant, avant de poursuivre, j'aimerais vous parler de ma propre expérience. Quand j'ai choisi d'écouter attentivement pour ensuite me mettre au travail, il y a 2 ans, dans une émission comme celle-ci, j'ai vraiment été inspiré par le conseil de Russell Nelson de travailler avec les dirigeants de la prêtrise et les missionnaires pour essayer d'encourager davantage d'étudiants à participer. Il a promis qu'ainsi, nous recevrions de grandes bénédictions en abondance et de belles occasions. J'y ai cru de tout mon cœur et j'ai fait de mon mieux pour intégrer le conseil de frère Nelson à ma mission. Ensuite, 1 an plus tard, pendant l'émission de l'année dernière, j'ai fait un rapport de certaines des expériences que j'ai eues en suivant le conseil de frère Nelson. Dans mon rapport, j'ai raconté l'histoire d'un jeune homme au Mozambique qui n'était pas membre de l'Église, mais qui se trouvait chez des personnes que nous contactions. Pendant notre visite, il a accepté l'invitation de s'inscrire à l'Institut et de rencontrer les missionnaires à plein temps. Nous avons appris plus tard qu'il assistait régulièrement à l'Institut, qu'il avait finalement reçu les enseignements de l'Église, de l'Évangile, et qu'il s'était fait baptiser. C'était vraiment formidable. Il y a 3 semaines au Temple, je suis tombé par hasard sur frère et sœur Snelson, le couple missionnaire à plein temps, qui était avec nous lors de notre visite à ces jeunes adultes du Mozambique. C'était si agréable de parler du passé et de notre association dans cette tâche. Dans la conversation, Sœur Snelson m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de nos visites. Je lui ai dit que je n'en avais pas eu depuis que j'avais appris, 1 an auparavant, que ce jeune homme avait assisté à l'Institut et s'était fait baptiser, et qu'il y avait d'autres sœurs d'une famille qui s'étaient aussi inscrites et avaient commencé à aller à l'Institut. Elle a dit, « Oui, c'est bien cette famille. » Elle m'a alors parlé de ses 3 sœurs qui, à l'époque, n'étaient pas inscrites à l'Institut et ne venaient pas régulièrement à l'Église, à part l'une d'elles. Elle m'a ensuite dit avec enthousiasme que les parents, qui étaient avec nous lors de notre visite et qui, eux non plus, n'allaient pas à l'Église à l'époque, se préparaient maintenant à recevoir les ordonnances du Temple, que 2 de ses sœurs étaient en mission à plein temps et que la 3e enseignait le séminaire dans sa paroisse. J'étais si heureux. Chère sœur, celle qui enseigne le séminaire, si c'est vrai que vous êtes là, je ne parle pas portugais, mais parabéns, bom dia, et te ou te amo. Frères et sœurs, j'étais si heureux d'entendre ces nouvelles, et je suis convaincu que ces grandes bénédictions sont le résultat de la promesse de frère Nelson. Il n'est bien sûr pas trop tard pour nous tous d'agir en fonction de la promesse de frère Nelson et d'aller porter secours. Sa promesse est toujours vraie et en vigueur. Je sais que nombre d'entre vous ont eu des expériences similaires après avoir écouté attentivement et mis en œuvre la vision des personnes qui sont appelées à nous diriger. Nous voici donc ensemble, impatients d'entendre ce qui a encore une fois été préparé pour nous aujourd'hui, pour l'année à venir et au-delà. Je prie pour que nous ayons des oreilles attentives et une véritable intention d'agir avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre un morceau de musique interprété par le chœur de l'Institut de Oula en Bahatar, en Mongolie. Il chantera « Pour la terre et sa beauté ». Nous entendrons ensuite Grant Anderson, un administrateur adjoint au sein des séminaires et instituts. Il sera suivi de Kelly Oz, notre collègue administrateur. Après faire Oz, nous nous lèverons pour chanter le cantique numéro 52, « Brillante étoile, étoile du matin ». Lors d'une conférence générale, Marlene Jensen a dit « Si nous faisons bien attention à l'utilisation du mot « se souvenir » dans les Saintes Écritures, nous nous rendrons compte que le fait de se souvenir, tel que Dieu le veut, est un principe fondamental et salvateur de l'Évangile. Eh bien, comment le souvenir sert-il de principe fondamental et salvateur ? Frère Jensen ajoute, il en est ainsi parce que les exhortations prophétiques à se souvenir sont souvent des appels à l'action, à écouter, à voir, à agir, à obéir et à se repentir. Nous en avons un exemple dans le livre de Mormon. Et l'amant appela ses fils Néphi et Léhi et leur expliqua pourquoi. Voici, je vous ai donné le nom de vos premiers parents qui sortirent du pays de Jérusalem. Et cela je l'ai fait afin que lorsque vous vous souvenez de vos noms, vous vous souveniez d'eux, et que lorsque vous vous souvenez d'eux, vous vous souveniez de leurs œuvres. Et lorsque vous vous souvenez de leurs œuvres, vous sachiez qu'il est dit et aussi écrit qu'elles étaient bonnes. C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fassiez ce qui est bien. C'est là l'une des façons dont le souvenir peut servir de principe fondamental et salvateur. Il peut nous aider à agir de manière appropriée et juste. Pour cette raison, l'Église nous encourage à nous souvenir de nos prédécesseurs, des personnes qui appartiennent à notre histoire familiale, de celles qui ont fait l'histoire de l'Église, celles qui sont mentionnées dans les Écritures, et surtout, à nous souvenir du Sauveur lui-même. Une jeune fille juive morte pendant les persécutions de la Deuxième Guerre mondiale a expliqué comment les personnes du passé peuvent nous bénir. Elle écrit, « Il y a des étoiles dont l'éclat est visible sur Terre, bien qu'elles soient éteintes depuis longtemps. Il y a des gens dont la lumière continue à éclairer le monde, bien qu'ils ne soient plus parmi les vivants. Ces lumières sont particulièrement brillantes quand la nuit est sombre. Elles éclairent le chemin de l'humanité. Ce principe s'applique aussi à l'histoire des séminaires et instituts. Il y a beaucoup de choses dans notre histoire dont il faut se souvenir. C'est pourquoi le siège a compilé et rédigé l'histoire de notre organisation. Nous avons le plaisir de vous annoncer que très bientôt une copie papier ou en ligne sera mise à votre disposition. Nous espérons que vous la lirez et qu'elle fera partie de notre étude individuelle et collective. Grâce à cette histoire, nous pourrons suivre l'exemple de ceux qui ont façonné les séminaires et instituts. Nous leur devons beaucoup et nous profitons du riche héritage qu'ils nous ont laissé. Bien que beaucoup d'entre eux soient décédés depuis longtemps, ils peuvent toujours nous éclairer dans notre marche vers l'avenir. Nous espérons qu'en nous souvenant d'eux, nous nous souviendrons de leurs œuvres et que nous agirons en conséquence. Ce matin, je vais raconter brièvement quelques anecdotes tirées de cette histoire. Je les raconte en espérant que le souvenir de nos grands prédécesseurs nous amènera à avoir les mêmes aspirations et à fournir les mêmes efforts. Dans son discours intitulé « La voie tracée », J. Reuben Clark a expliqué que, en premier lieu, un éducateur religieux devait avoir personnellement le témoignage que Jésus est le Christ et que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Ce témoignage a motivé de nombreux éducateurs religieux fidèles et leurs familles à accepter des tâches difficiles et à sacrifier une bonne partie de leurs ambitions et de leur confort personnel. Ils ont suivi l'exemple de Gordon Winkley qui a dit de lui-même « Je ne sais pas comment accomplir quoi que ce soit sans me mettre à genoux et supplier pour qu'on m'aide, puis me relever et me mettre au travail. » Ray Jones, auquel on a demandé de commencer le programme de séminaire matinal de l'Église, était de la même trempe. Pendant la conférence générale d'avril 1950, 10 présidents de pieux de la région de Los Angeles rencontrent Joseph Fielding Smith pour parler de la possibilité d'établir le programme du séminaire sous une forme ou une autre pour les jeunes de leur région. Ils ne savaient pas comment s'y prendre, car l'État de Californie ne prévoyait pas de cours d'instruction religieuse pendant la journée scolaire. Franklin West, commissaire à l'éducation de l'Église, savait que l'on donnait des cours de séminaire avant la journée scolaire en Utah. Et il voyait là une solution qui pourrait convenir à la demande émanant de Californie du Sud. Il a demandé à Ray Jones, directeur du séminaire de Logan, en Utah, de se rendre en Californie pour mettre en place ce programme. Comme il était satisfait de son poste et qu'il s'installait dans la maison qu'il venait d'acheter, Frère Jones a répondu qu'il ne pensait pas être la bonne personne pour lancer le programme. Pressé de lancer le programme, le commissaire West a dit à Frère Jones qu'il pouvait laisser sa famille à Logan et se rendre de temps en temps à Los Angeles, distant de 1100 kilomètres. Frère Jones a finalement accepté de prier à ce sujet. Après avoir longuement médité, il a décidé de renoncer à sa maison de Logan et de s'installer définitivement à Los Angeles pour lancer le programme. De même que Néphi qui a dit, j'étais conduit par l'esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. Ray Jones partit pour la Californie du Sud. Comme l'église ne lui donna pas d'argent pour son voyage, il trouva un emploi de cheminot pour transporter du bétail d'Utah en Californie. Il fit enfin venir sa famille à Los Angeles et participa à l'organisation de la commission locale de l'enseignement. Howard Hunter, alors président de Pew dans la région, était également président de la commission, et ce qui arriva ensuite est bien connu. Ce qui commença en 1950 avec 195 élèves répartis dans cette classe s'est développé en 65 ans pour compter plus de 250 000 élèves dans 136 pays. L'esprit de dévouement et de sacrifice s'est manifesté à maintes reprises dans le cœur des éducateurs religieux de chaque partie du monde. Écoutez le compte-rendu de l'un d'entre eux, en Mongolie, qui suivit les conseils de son dirigeant de la prêtrise et œuvra dans des conditions difficiles pour le mettre en place. Odjerol Oshirjav, converti à l'Église, avait obtenu un doctorat en technique forestière et il avait un poste de chercheur en Mongolie quand on lui demanda de travailler à plein temps comme coordinateur des séminaires et instituts. Il commença par refuser, mais finit par donner son accord. En novembre 2008, frère Odjerol et le directeur régional, Patrick Chuck, participèrent à une réunion avec le président de mission. Ce dernier leur demanda pourquoi il n'y avait pas de cours matinaux de séminaire en Mongolie. Frère Odjerol lui répondit, « Frère, nous sommes en Mongolie. Il fait froid, il fait sombre, il y a des chiens et il n'y a pas de transport public. » Un an après, les trois hommes se réunirent à nouveau et le président de mission répéta la question. Frère Odjerol répondit encore une fois qu'il faisait froid, qu'il faisait nuit et qu'il y avait des chiens et pas de transport public. Après la réunion, frère Chuck prit frère Odjerol à part et lui dit, « Odjerol, quand votre dirigeant de la prêtrise vous demande quelque chose, vous devez y travailler. » Frère Odjerol répliqua, « Patrick, vous ne comprenez pas le froid mongol, les chiens mongols et le manque de transport. » C'est ainsi que la conversation se termina. Peu de temps après, frère Odjerol lisait Doctrine et Alliance 85-8 et il remarqua l'expression « affermir l'arche de Dieu ». Il lut une citation de David O'Mackey dans le manuel de l'Institut disant que ceux qui cherchent à affermir l'arche ne tarde pas à mourir spirituellement. Plus tard, frère Odjerol écrivit, « Ne voulant pas perdre l'esprit, j'ai commencé à établir le programme de séminaire matinal en Mongolie. J'étais étonné que les dirigeants de prêtrises locaux montrent de l'enthousiasme. En septembre 2009, ils commencèrent avec 140 élèves, et en mars, ils étaient de 352. En dépit de l'hiver le plus froid que la Mongolie avait connu depuis 30 ans, il a fait moins 32 degrés Celsius en moyenne cet hiver-là. Lors d'une conférence générale, Victor Brown, évêque président, a déclaré « Dans le monde, de nombreuses organisations, des églises, des gouvernements et même des familles ont perdu beaucoup de leur vitalité parce qu'ils ont eu peur de demander aux gens de faire des sacrifices. » Il est impératif que nous ne fassions pas la même erreur. Je prends un instant pour vous remercier au nom du département pour les sacrifices que vous faites tous. Beaucoup des choses les plus importantes que vous avez accomplies pour le bien des jeunes ne sont pas célébrées et n'apparaissent dans aucun rapport. Je crois que le service et les sacrifices continuent à prospérer dans notre organisation. Merci. Comme le dit l'un de nos cantiques, que de faveurs viennent du sacrifice. Que ces faveurs vous soient accordées, à vous et à vos êtres chers. Les programmes des séminaires et instituts qui marchent ont toujours demandé que les éducateurs religieux aient de bons rapports de travail avec les autres, y compris les parents, les dirigeants de la prêtrise, le personnel des établissements scolaires et les membres de la collectivité. Notre comportement et le travail que nous faisons avec d'autres personnes doivent toujours représenter l'esprit du Christ et de son évangile. Robert Hales a déclaré, la façon dont nous traitons les membres de notre famille, nos voisins, nos collaborateurs et toutes les personnes que nous rencontrons révélera si nous avons pris son nom sur nous et si nous nous souvenons toujours de lui. Cet esprit était évident chez le directeur du tout premier institut, Wiley Sessions. Frère Sessions servait depuis 7 ans comme président de la mission d'Afrique du Sud, quand la première présidence lui demanda ainsi qu'à sa femme d'aller vivre à Moscou en Idaho pour mettre en place le programme de l'Institut. Les membres de l'église de cette ville les accueillirent chaleureusement, mais certaines factions de la collectivité les considérèrent avec méfiance. La nature imprécise de l'affectation de frère Sessions à Moscou augmentait leur suspicion. Plusieurs hommes d'affaires locaux allèrent jusqu'à constituer un comité pour le surveiller et s'assurer qu'il ne mormonisait pas à l'université. Fair Sessions adhéra à plusieurs organisations locales pour faire la connaissance de personnes qui ne lui auraient pas adressé la parole autrement. Lors d'une série de repas bi-hebdomadaires offerts par la Chambre de commerce, il prit la peine de s'asseoir à côté de l'homme qui dirigeait le comité constitué pour s'opposer à son travail. Pendant l'un de ces repas, cet homme lui dit « Vous êtes incroyable. J'ai été nommé à un comité pour vous empêcher de travailler à Moscou, et chaque fois que je vous vois, vous êtes si amical que je vous trouve de plus en plus sympathique. » Frère Sessions lui répondit, « Moi de même, autant être ami. » Frère Sessions a dit plus tard que cet homme était devenu l'un de ses meilleurs amis durant son séjour à Moscou, en Idaho. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur a déclaré, « Nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble et plein d'amour. » Nous ne pouvons pas réussir en tant qu'éducateurs religieux si nous ne sommes pas motivés par l'amour, l'amour que nous portons au Seigneur, à notre famille, à nos élèves et aux personnes avec qui nous œuvrons. En 1978, Gordon Hinckley s'est adressé aux employés du département d'éducation de l'Église en ces termes. « Que l'amour devienne votre référence. C'est la plus grande force sur terre. Cultivez l'amour que vous avez pour les élèves que vous enseignez, particulièrement pour ceux qui vous causent le plus de difficultés. C'est eux qui ont le plus besoin de vous, et le miracle qui se produira dans leur vie quand vous travaillerez avec eux dans un esprit d'encouragement et de bienveillance vous apportera de la joie et des satisfactions chaque jour, et leur donnera de la force, de la foi et un témoignage. Parfois, nous avons du mal à aimer certains élèves et les gens avec lesquels nous travaillons. Et alors, il y a dans notre histoire le récit d'un ancien administrateur qui avait de la difficulté à aimer les gens avec qui on lui avait demandé de travailler. Prenez bonne note de ce qui lui a finalement permis de les aimer. L'Église s'étendant dans le monde, les séminaires et instituts ont rencontré le défi de donner une instruction religieuse dans d'autres pays, cultures et langues. Au début des années 1970, les séminaires et instituts ont été restructurés et les administrateurs adjoints ont eu des zones à superviser en dehors des États-Unis. Frank Day, l'un des assistants administrateurs, avait servi dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'était battu dans le Pacifique Sud et on lui avait appris à haïr l'ennemi. Frère Day craignait qu'on lui demande de travailler avec des Asiatiques. Comme il le craignait, Frère Joe Christensen, commissaire adjoint à l'éducation, lui demanda de superviser le Pacifique Sud et l'Asie. Pendant qu'il survolait l'océan Pacifique pour se rendre au Japon, il gardait dans son cœur des sentiments qui dataient de la guerre, malgré ses prières sincères pour s'en débarrasser. Alors qu'il allait atterrir, Frère Day fut rempli d'effroi. Il traversa l'aéroport et s'approcha du président de mission. Quand il le regarda, il vit de l'amour sur son visage et fut submergé par ses propres sentiments d'amour. Tous ses précédents sentiments négatifs s'évanouirent. Frère Day déclara qu'il avait prié sincèrement et que l'Esprit du Seigneur avait rempli son cœur d'un amour qui ne s'y trouvait pas naturellement. Nous pouvons faire de même. Comme nous l'a conseillé Mormon, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour. Le même esprit peut aussi nous encourager et nous élever quand nous nous sentons seuls, incompris ou démoralisés. Bob et Gwanda Arnold reçurent la tâche de se rendre au Guatemala et d'y établir le programme des séminaires et instituts. Frère Arnold a décrit ce qu'il a ressenti pendant qu'il faisait le long trajet en voiture pour rentrer chez lui après avoir rempli une tâche. Il était minuit et demi ou une heure du matin. J'ai eu l'affreuse impression que personne ne savait où j'étais. Ma famille croyait que je dormais quelque part. Aux États-Unis, personne ne savait ce que je faisais. Je me sentais si seul. Alors que je traversais une belle zone boisée, sous un ciel rempli d'étoiles brillantes, j'ai jeté un coup d'œil vers le ciel et l'esprit m'a murmuré « Je sais où tu es ». Le sentiment de solitude a disparu et j'ai pleuré pendant une bonne partie du retour. La joie et la paix que j'éprouvais venait de la connaissance que mon Père Céleste savait qui j'étais et ce que je faisais. Si l'histoire des séminaires et instituts nous apprend quelque chose, c'est certainement d'avoir de la reconnaissance pour le privilège immense que nous avons de fréquenter les jeunes croyants fidèles de l'Église. Ces élèves sont animés d'un esprit de foi et de sacrifice aux quatre coins du monde. Par exemple, un jeune homme s'est levé à 3h15 chaque matin pour arriver au séminaire à l'heure. Pour cela, il devait marcher jusqu'à l'arrêt du bus, faire un trajet de 15 minutes, attendre un deuxième bus et marcher la distance de 4 pâtés de maison jusqu'à l'église. Il devait souvent le faire dans la pluie et le froid. À la fin de l'année, il avait plus de 90% de présence et aucun retard. Je vais vous donner encore un exemple pour vous montrer combien nos élèves peuvent être pleins de foi et dévoués. Stevie Ba, ancien administrateur adjoint, a fait une mission aux Philippines et est revenu quelques années après afin d'y mettre en place le programme du séminaire. Il raconte qu'il a rendu visite à une famille qu'il avait connue pendant sa mission et dont la fille s'appelait Maria. Frère Iba a écrit « J'ai frappé à la porte de leur maison en ciment et la mère a ouvert. Je lui ai dit pourquoi j'étais revenu et lui ai expliqué le programme d'études à domicile du séminaire. J'ai demandé des nouvelles de Maria qui devait avoir dans les 19 ans. Ils ont tiré le rideau qui séparait la salle en deux et sur un lit d'appoint ressemblant à une poupée de son pesant dans les 40 kilos, il y avait Maria qui se mourait d'un cancer. Elle m'a fait un beau sourire et m'a regardé avec une lueur dans les yeux quand je me suis approché d'elle. Elle m'a demandé si elle pouvait commencer à étudier le programme du séminaire. Elle n'avait que 6 mois à vivre et voulait être mieux préparée à enseigner l'évangile à sa famille dans le monde des esprits. Je lui ai promis que dès que la documentation arrivera à Manille, elle serait la première à la recevoir. Quand je suis revenu semaine plus tard, Maria était prête à étudier. Son père, qui était devenu membre de l'église et président de branche, avait installé des miroirs au-dessus de la tête de la jeune fille pour qu'elle puisse lever les yeux, lire et écrire. Comme elle était très faible, elle ne pouvait pas s'asseoir. Une semaine avant sa mort, Maria a terminé le dernier exercice de l'étude du livre de Mormon à domicile, soit 9 mois de travail, plus de 1000 pages, chaque mot, chaque espace à remplir. Nous espérons que cette histoire sera mise à votre disposition pour que vous la lisiez, que vous appreniez les leçons qu'elle contient et surtout, qu'elle devienne un lien fort dans la chaîne de notre histoire en cours. Dieter Ohrdorf a déclaré « Nous considérons parfois le rétablissement de l'Évangile comme étant quelque chose de terminé. En réalité, le rétablissement est un processus encore en cours. Nous le vivons en ce moment. C'est une des périodes les plus remarquables de l'histoire du monde. Dans cette optique, Frère Ohrdorf nous a conseillé de ne pas dormir pendant le rétablissement. Nous sommes tous témoins de la manière dont le Seigneur est en train de hâter son œuvre de salut. Quand un Cook a déclaré, une grande partie de la charge d'accélérer l'œuvre du salut des vivants et des morts sera portée par les jeunes. En tant qu'éducateurs religieux, nous pouvons les préparer à porter cette lourde charge. Le meilleur moyen de les aider, comme l'a suggéré le président Ehring il y a quelques années, c'est d'exiger davantage, pas moins, d'eux. En augmentant leurs connaissances, en assistant régulièrement aux cours, en lisant après le cours et en participant aux évaluations, les élèves seront mieux préparés que les générations précédentes. Nous devrions être reconnaissants et touchés d'avoir reçu l'honneur sacré de contribuer à l'écriture de ce chapitre de l'histoire du rétablissement en cours. L'auteur et défenseur du christianisme, C.S. Lewis, a écrit « Les événements les plus importants de chaque époque ne sont jamais rapportés dans les livres d'histoire. Depuis plus de 100 ans, il y a des éducateurs aux séminaires et instituts qui œuvrent discrètement et font des sacrifices pour amener les jeunes au Christ. La plupart d'entre eux ne seront jamais mentionnés dans un livre. Cependant, nous avons l'assurance qu'ils ne passeront pas inaperçus, car les anges du Père au Livre Saint gravent ce qu'ils font. Il y a un registre tenu ailleurs qui inclura toutes les actions contribuant à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur, y compris les vôtres. Nous avons parlé brièvement de notre histoire aujourd'hui. Pourtant, quand nous regardons vers l'avenir, il serait bon de se rappeler un commentaire de James Talmage. La prophétie est l'enregistrement des événements avant qu'ils se produisent. L'histoire est l'enregistrement des événements après qu'ils se sont produits. Et il vaut mieux se fier à la prophétie qui est plus exacte que l'histoire. Que dit la prophétie concernant l'avenir ? Joseph Smith, le prophète, nous a expliqué qu'aucune main impure ne peut arrêter le progrès de cette œuvre. La vérité de Dieu ira de l'avant avec hardiesse, avec noblesse et en toute indépendance, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré sur chaque continent, visité chaque contrée, pénétré dans chaque pays et résonné dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu se soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Que le Seigneur bénisse nos efforts pour utiliser cette histoire afin de nous souvenir et d'agir, tandis que nous contribuons à faire advenir le triomphe glorieux de l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you, Brother Anderson.
Merci, Frère Anderson. Nous sommes enthousiastes et de faire partie de cette œuvre. En préparation pour aujourd'hui, j'ai prononcé mon discours devant ma famille et je lui demandais son avis. Et cela a été presque entièrement utile. Le retour, j'hésite à le reconnaître, haut et fort, je suis certain que personne d'entre vous n'a reçu un pareil en classe, c'est qu'Annie, notre fille de 12 ans, s'est endormie la moitié du discours. Alors, elle et moi, nous espérons que cette version est meilleure. Ces deux dernières années, Frère Webb nous a demandé d'aider nos élèves à lire les Écritures d'une manière qui a profité leur foi au Sauveur. L'an passé, plus d'élèves que jamais ont lu les Écritures. Ils ont passé 9 millions d'heures. Désolé, à étudier personnellement les Écritures. Merci de vos efforts. Aujourd'hui, nous renouvelons cette demande. Voulez-vous aider chaque élève du séminaire et d'institut à vivre une expérience marquante en étudiant les Écritures chaque jour? Certains passages dans l'Ancien Testament sont difficiles à lire et à comprendre pour nos élèves. Mais je crois sincèrement que nous n'avons pas à nous glisser derrière eux et leur murmurer l'Ancien Testament à l'oreille. Frère Webb nous a aussi demandé de voir comment nous pourrions nous focaliser encore plus sur les Écritures que nous enseignons. Il a posé une série de questions sur le rôle que jouent les Écritures dans notre enseignement. Beaucoup d'entre vous ont réfléchi soigneusement à ces questions. Merci. Aujourd'hui, parlons un moment du rôle que jouent les Écritures dans notre préparation pour enseigner. En mai 1829, Joseph et Emma vivaient à Harmony, en Pennsylvanie. Hiram était venu leur rendre visite et espérait apprendre son rôle dans le déroulement du rétablissement. Le prophète a interrogé le Seigneur, qui lui rappela que la parole est rapide, puissante et plus acérée qu'une épée à double tranchant. Le Sauveur enseigna ensuite à Hiram et à nous un principe et une priorité qu'il établissait, tandis qu'il établissait une séquence importante pour les enseignants. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Et alors, ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Nos efforts pour enseigner ne commencent pas quand nous en préparons une leçon, ou que nous nous demandons comment la donner, ou même lisons le cours. Nos efforts pour enseigner commencent en fait ad fontes, c'est-à-dire à la source. Comme l'a dit le président Romney, il n'y a pas de meilleure préparation pour enseigner que de s'abreuver profondément à la source, là où l'eau sort du sol. Si nous voulons enseigner les Écritures avec puissance, si nous voulons que nos élèves ressentent la vérité et l'importance d'un passage, cela doit nécessairement commencer par un enthousiasme plein de fraîcheur chez nous. Le président Romney a donné ce conseil. Pour bien enseigner l'Évangile, Nous devons travailler, étudier, jusqu'à ce que les enseignements du Seigneur soient devenus les nôtres. Alors nous serons préparés à parler avec puissance et conviction. Si nous choisissons de suivre un autre mode de préparation, nous exprimerons nos idées ou celles de quelqu'un d'autre. Et alors nous n'aurons pas de garantie de succès. Je vais mentionner deux idées simples qui doivent nous guider dans nos efforts pour obtenir la parole de manière à ce que les Écritures brûlent en nous. Premièrement, il y a une hiérarchie des vérités. Et si nous apprenons à discerner cette vérité, ce sera une bénédiction pour nous et pour nos élèves. Deuxièmement, les Écritures contiennent des liens, des modèles et des thèmes, entre autres, des préfigurations et des ombres. La plus importante nous oriente vers le Sauveur. Pour commencer, Frère Maxwell a parlé d'aristocratie entre les vérités et a dit que certaines méritent notre loyauté, un mot qui suggère la fidélité ou l'obéissance. Il a dit, certaines peuvent être à la fois vraies et sans importance. Nous devons non seulement distinguer entre les faits et l'imagination, mais aussi savoir quels faits méritent notre loyauté. L'évangile de Jésus attire notre attention vers la réalité qu'il y a une aristocratie entre les vérités. Certaines vérités sont simplement et éternellement plus importantes que d'autres. La plupart des passages d'Écriture comportent des détails. Les détails inspirés qui sont inclus éclaireront les principes qui sont destinés à expliquer. Nous devrions être d'excellents étudiants, à la fois des détails et de la doctrine contenue dans les Écritures. Il est important de comprendre que les détails scripturaires enseignés, indépendamment de la doctrine et en soi, ne font qu'informer. Ce mode d'enseignement ne nous nuira pas si l'Esprit est présent, ni ne nous sera utile s'il est absent. Par ailleurs, un enseignement qui non seulement comporte des histoires, des réflexions et des sentiments personnels engendrés par des discussions, mais en plus est dénué de la substance nécessaire pour enseigner la vérité et inspirer, manque tout autant la cible. Nos élèves seront le mieux servis par des instructeurs qui sont excellents d'étudiants des Écritures, qui comprennent le rôle essentiel du Saint-Esprit. J'ai entendu des gens parler d'enseignements spirituels qui manquent d'érudition. J'en ai entendu d'autres parler d'enseignements érudits qui manquent d'esprit de conversion. Seul, ni l'enseignement spirituel ni l'érudition ne répondent aux demandes de l'éducation religieuse. Robert Matthews a dit un jour, le mot « religion » signifie littéralement « relié à ». Il est lié au mot « ligament » qui attache le muscle à l'os. L'éducation religieuse est censée relier nos élèves à Dieu et aux choses sacrées. Le détail scripturaire signale souvent des vérités précieuses. Quand on enseigne la vérité en rendant témoignage, cela ouvre la porte à la révélation, et le Saint-Esprit applique l'expiation à notre vie, ce qui accroît notre conversion au Sauveur et notre engagement à suivre le plan de notre Père Céleste. L'Ancien Testament comporte, à n'en pas douter, des récits spectaculaires, des coutumes fascinantes et de belles formes littéraires. Il est important que nous nous rappelions et que notre enseignement reflète le fait que ces détails ne sont pas la raison d'être du passage. Comme on nous l'a enseigné, les Écritures ont été rédigées pour préserver les principes. Ces principes sont la substance et la raison d'être des révélations. Enfin, même parmi les principes, il y a un ordre, car les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des prophètes et des apôtres concernant le Sauveur. Distinguer les détails des principes et apprendre à reconnaître les hiérarchies existantes parmi ces principes sera la quête de toute une vie. Si nous enseignons chaque détail de l'histoire et de la loi, et si nous enseignons chaque détail des pérégrinations d'Israël, et que nous ratons le message du plan de notre Père Céleste et l'expiation de Sauveur dans l'Ancien Testament, nous n'aurons pas enseigné le message de l'Ancien Testament. Et il ne fait pas de doute que Paul me l'écrivait moi, et peut-être certains de nos élèves, quand il disait qu'un voile demeurait dans la lecture de l'Ancien Testament. Il a ensuite donné une solution à ce dilemme quand il a dit que ce voile disparaît dans le Christ. Et quand notre cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Si notre enseignement se concentre sur le Sauveur, et si nous pouvons aider l'esprit et le cœur de nos élèves à se tourner vers lui, le voile sera ôté quand ils liront l'Ancien Testament. Et plus important peut-être, en apprenant à chercher le Sauveur dans leur étude des Écritures, nos élèves apprendront une leçon parallèle et commenceront à apprendre aussi à le rechercher et à rechercher la main du Père dans leur vie. Je vais vous faire une suggestion qui nous aidera à discerner la vérité dans les Écritures. Prenez un passage, lisez-le et demandez-vous, quels sont les détails de ce passage? Soulignez les gens, les lieux, la chronologie, l'intrigue. Cherchez le contexte général du passage et soulignez tous les détails du contexte que vous trouvez. Comme le suggère notre manuel, notez les pauses naturelles, les changements de ton et ou de contenu. Relisez ce passage et cette fois, demandez-vous, quels sont les principes ou les vérités présentées pour qu'on les applique et qui, si on les comprend, mèneront à l'obéissance? Étudiez le contexte global. Marquez chaque principe d'une manière différente que les détails. Si les principes sont implicites, prenez le temps de les noter par écrit. Le faire consciemment sera difficile au début. Cela demandera de la concentration et prendra du temps. Entre autres bénédictions, cette discipline nous amène à nous demander continuellement quels sont les détails de ce passage et quels sont les principes qui sont censés enseigner. Comme nous l'avons déjà dit, certains principes sont plus importants que d'autres. Ils suscitent plus d'inspiration, de vie et de salut parce qu'ils nous orientent vers le Sauveur. Donc, relisez le passage, cette fois d'une autre perspective, et demandez-vous, comment ce passage est-il conçu pour attirer mon attention vers le Sauveur? Qu'est-ce qui porte ici à plus de compréhension, de gratitude et de confiance en lui et dans le plan de notre Père Céleste? Enfin, réfléchissez soigneusement à ce que les prophètes modernes ont dit, qui ajouterait à la compréhension de ce passage et l'inspiration qu'il donne. Après avoir étudié ainsi, quand nous passons au texte du cours, la compréhension, les suggestions et la direction supplémentaire qu'il procure s'associeront à la perception, à l'inspiration, à l'expérience que nous avons reçue en lisant les Écritures et les paroles des prophètes. Le texte du cours confirmera alors, affinera et soulignera les effets de notre préparation pour déclarer la parole avec puissance. Par exemple, quand nous étudierons le livre de Ruth cette année, nous pourrons y voir une histoire touchante de deuil et de loyauté. Ou bien, en réfléchissant à cette hiérarchie de vérité, nous pourrons remarquer que Ruth avait perdu son mari, qu'elle s'était rendue à Bethléem, et que c'est dans cette ville qu'elle a rencontré Boaz. Nous pourrons alors remarquer que Boaz a répondu aux besoins de Ruth, lui a donné du pain et une coupe de vinaigre de vin, a intercédé pour elle à la porte de la ville, puis a exercé un droit de rachat, a littéralement rédimé Ruth, l'a rachetée, l'a prise pour femme, et ne se donna point de repos qui n'ait terminé cette affaire. Alors, nous pourrons commencer à percevoir le témoignage voulu d'amour et de rédemption et être édifiés et inspirés en prenant conscience que le grand Rédempteur fait la même chose pour chacun de nous. Ce n'est là qu'un exemple de manière de sonder les Écritures. L'instructeur attentionné aidera ensuite chaque élève à vivre personnellement la même expérience d'étude en devenant spirituellement autonome. Mes frères et sœurs, à chaque page des Écritures, nous faisons un choix qui a des répercussions sur le pouvoir d'enseignement et d'apprentissage dans nos classes. Ce choix est suivant. Vers quelle vérité allons-nous tourner l'esprit, le cœur et la foi de nos élèves? Ce choix fait une différence énorme dans la portion de la parole qui s'intègre à leur façon de penser et à leur comportement. Si je ne suis pas diligent à cet égard, si je choisis de laisser la vérité inférieure dominer mon enseignement, alors, comme l'a enseigné le président Eyring, j'ai presque renoncé à lutter pour aider un élève à résister à la marée de fange. En plus de reconnaître la hiérarchie de vérité, une deuxième idée simple qui peut nous aider à obtenir la parole est que les Écritures regorgent de liens, de thèmes et de préfigurations. Je vais donner un bref exemple de chaque tiré de l'Ancien Testament. Frère Benna a expliqué qu'un lien est un rapport entre des idées, des gens, des objets ou des événements. Un lien que nous pouvons relever est que l'Ancien Testament abonde en histoires de réussite et d'échec, et que ces histoires sont souvent relatées de manière comparative, en parallèle. Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Jacob et Ésaü, Abigail et Nadab, etc. Le président Eyring a noté une clé. Dans la description d'un échec, il y a l'ombre de la voie de réussite. Les cycles récurrents de déclin spirituel et de guérison peuvent être porteurs d'espoir et d'enseignement pour vos élèves. Les thèmes sont des qualités ou des idées centrales, récurrentes et unificatrices, comme des fils conducteurs qui parcourent tout un texte. Un thème que nous pourrons relever cette année est exprimé dans cette phrase. « Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. » Tout au long des fléaux qui précédant leur libération, comme des miracles qui ont suivi, il est dit aux enfants d'Israël que par ces choses, ils sauraient que c'est l'Éternel qui les guidait. La mort de Goliath, la guérison d'Aman, la rencontre d'Élie avec les prêtres de Baal, ainsi que les espérances sacrées sur l'aile de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, sont toutes rapportées dans l'intention déclarée que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Tout au long des livres des psaumes, d'Ésaïe et d'Ézéchiel, dans 17 livres de l'Ancien Testament et à plus de 80 reprises, Jéhovah répète, souligne et assure qu'Israël et nous devons le voir et voir sa main dans les événements, les enseignements de l'Ancien Testament, afin que nos enfants et nous sachions, du soleil levant au soleil couchant, que hors de lui, il n'y a point de Dieu. Quand nous étudierons les thèmes scripturaires dans les nouveaux cours Cornerstone de l'Institut, les Écritures seront liées ensemble de telle manière que quand nous sonderons l'une, nous serons amenés à l'autre. Si les Écritures sont l'étude principale de ces cours, elles croîtront ensemble et amèneront nos élèves à la connaissance de leurs alliances. Frère Bernard a déclaré, la recherche des thèmes scripturaires nous conduit à des vérités éternelles qui ouvrent la porte à la confirmation par le Saint-Esprit. Cette approche pour obtenir l'eau vide du réservoir scripturaire est la plus exigeante et la plus rigoureuse, mais elle mène aussi à l'édification la plus grande. Elle exige plus, pas moins, de nous, instructeurs. Il y a de nombreux modèles dans l'Ancien Testament. L'un attire particulièrement notre attention et demande nos efforts. Il s'agit bien entendu de la recherche des témoignages de notre Père Céleste et du Sauveur. Bruce McConkie a dit, « Il est bon de rechercher les similitudes du Christ partout et de les utiliser souvent pour le garder et garder ses lois au premier plan dans notre pensée. » Commencer à répertorier les symboles, les ombres du Sauveur, revient presque à compter les gouttes d'eau d'une rivière ou les particules de lumière un jour de soleil. Après tout, tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde préfigure le Christ. La création, le serpent d'airain, la manne, la libération d'Israël de la servitude en Égypte par le sang d'un agneau peint sur les chambranles de leurs portes, et toute la loi de Moïse, avec son système de sacrifice et de rappel, sont consciemment et évidemment conçus comme un pédagogue pour nous amener à Christ. L'acceptation d'Abraham de sacrifier Isaac, les titres de Melchizedek, dont celui de prince de la paix, le salut que Joseph apporte à ses frères qui l'ont vendu, et la libération que Moïse apporte aux enfants d'Israël, font d'eux des préfigurations de celui qui devait venir. Adam était un homme parfait qui, quand il se trouvait dans le jardin, a volontairement choisi de donner sa vie pour que nous vivions. Le roi décida d'établir Daniel gouverneur de tout le royaume du fait de l'excellent esprit qui était en lui. Les gouverneurs et les princes, ceux qui avaient des postes d'autorité et qui étaient Daniel, cherchaient une raison de l'accuser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors ces hommes méchants s'assemblèrent et se consultèrent. Entre-temps, Daniel se retira en un lieu où il avait l'habitude de se rendre, et là il pria. L'apprenant, le roi était décidé à délivrer Daniel. Ensuite, après que Daniel eut été envoyé à une mort certaine, on apporta une pierre, on la posa sur l'entrée de la fosse. Dès son lever, le roi se rendit toute hâte à la fosse et découvrit qu'un ange y avait été. Et l'on sortit Daniel de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui. Alfred Adersheim a dit que tout l'Ancien Testament a pour but de nous orienter vers le Sauveur. Ce n'est pas seulement la loi qui est un pédagogue, les symboles qui sont des ombres de lui, ni même les prophéties qui sont des prédictions de lui, mais toute l'histoire de l'Ancien Testament est pleine du Christ. Il s'ensuit une chose. Seule une étude des Écritures qui nous fait connaître le Sauveur peut être suffisante ou profitable. Tout au long de vos cours, et chez vous, et dans votre famille, veuillez prendre le temps de demander à vos élèves et à vos enfants ce qu'ils apprennent et en quoi cela les aide à comprendre notre Père Céleste et Sauveur et à placer leur confiance en eux. Et dès le premier jour de cours, veuillez enseigner à vos élèves à chercher systématiquement ces magnifiques témoignages qui ont été placés intentionnellement par ces auteurs inspirés. Mes frères et sœurs, les Écritures ont un rôle irremplaçable dans notre enseignement et dans notre préparation pour enseigner. Rappelez-vous cette mise en garde du président Romney. Nous sommes chargés de transmettre ce que nous recevons du Seigneur, les Écritures, aux personnes que nous instruisons. Parfois, nous pouvons tenter de transmettre avant l'avoir obtenu. Il peut arriver que nous voulions prêcher avant de donner au Seigneur la possibilité de nous préparer. Dans cet esprit, j'ajoute quelques questions à celles que nous a posées Frère Webb l'année dernière et je vous invite à l'examiner dans notre préparation pour enseigner. Est-ce que je commence ma préparation pour le cours en sondant les Écritures? Est-ce que me fait un festin les Écritures que j'enseigne aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont comme un feu qui consume mes os? Est-ce que je comprends les détails et les points de doctrine que l'auteur inspiré voulait me faire voir et comprendre? Ai-je songé les paroles de prophètes pour y trouver l'accent, la compréhension et le témoignage qu'ils apportent à un passage? Dans chaque circonstance, ai-je recherché et trouvé les façons dont le passage témoigne du Sauveur et de son expiation? Dans nos cours, puisse la parole être plus acérée qu'une épée à double tranchant, parce que les Écritures brûlent en nous. Puissions-nous avoir la détermination de distinguer les détails de la doctrine digne de loyauté? Et puissions-nous aider nos élèves à apprendre à découvrir les magnifiques témoignages scripturaires du plan de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé? J'ajoute au vôtre mon témoignage, en particulier de l'amour de notre Père Céleste, manifesté et rendu accessible par la miraculeuse expiation de son Fils. Et j'exprime ma gratitude pour l'insigne honneur de faire partie d'un merveilleux rétablissement qui fait connaître son nom sur la terre à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous allons maintenant entendre notre administrateur, Chad Webb. Il sera suivi par Carol McConkie. Sœur McConkie a été appelée première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles en avril 2013. Elle sert aussi en tant que membre du conseil général des jeunes filles et a eu de nombreux autres appels de pieux et de paroisses. Elle a reçu son diplôme d'enseignante de l'Université d'État d'Arizona, où elle a rencontré son mari, Oscar W. McConkie, III. Ils se sont mariés au temple de Mesa, en Arizona. Ils ont 7 enfants et 24 petits-enfants. De 2005 à 2008, elle a servi aux côtés de son mari, qui était président de la mission de San José, en Californie. Après Sœur McConkie, nous entendrons notre commissaire, Kim Clark. Frère Clark a été nommé membre du premier collège des 70 le 4 avril 2015. Il a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en économie de l'Université de Harvard. Il est devenu membre du corps enseignant de Harvard Business School en 1978 et a été nommé doyen de cet établissement en 1995. Il a servi à ce poste jusqu'à l'été 2005, quand il a été nommé président de l'Université Brigham Young, Idaho. Frère Clark a rempli de nombreux appels dans l'Église, notamment missionnaire à plein temps dans les missions d'Allemagne du Sud. Il est marié à Sue Lauren Hunt et ils ont 7 enfants. Après l'intervention de Frère Clark, nous chanterons le cantique numéro 39, version Cité promise. La prière sera offerte par Barbara Scoville, femme de Richard Scoville de l'interrégion de l'ouest de la vallée du lac Salé.
It is such a pleasure to be with
you. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons ici été si bien enseignés. C'est une joie d'être là. J'espère que vous savez combien je vous aime, vous estime et vous respecte tous pour ce que vous faites. C'est particulièrement une joie d'avoir mon épouse Christy avec nous. Aujourd'hui, ça fait 29 ans que nous sommes mariés. Donc, on a pensé que ce serait bien de célébrer ça en votre compagnie. C'est vraiment merveilleux ce que vous faites, vous les épouses, dans cette organisation en nous soutenant. Merci de votre contribution. Merci d'être là. C'est merveilleux d'en faire partie. En ce qui concerne la formation des autorités générales qui s'est unie à l'occasion de la dernière conférence de l'Église, elle avait pour thème « Honorer le sabbat et en faire un délice ». Les collèges qui président l'Église sont unis dans un grand effort mondial pour enseigner l'importance d'honorer le jour du sabbat à l'Église et au foyer. Cela est enseigné dans les conseils d'interrégion, de coordination et de pieux. Les présidents de pieux forment les évêques et ensemble, ils continuent d'instruire les membres de leurs pieux et paroisses. Plusieurs clips vidéo ont été tirés de cette formation aux autorités générales et seront mis sur notre site web. J'espère que vous regarderez soigneusement, analyserez et utiliserez cette ressource importante. Aujourd'hui, je voudrais que vous regardiez des extraits de 2 présentations de cette formation. Vous entendrez d'abord Russell Nelson, qui sera suivi de Russell Ballard. Mes chers frères et sœurs, je vous aime et j'admire chacun d'entre vous. La première présidence a mis l'accent ce matin sur le grand souci que nous avons tous pour les gens qui sont perdus, inconnus ou non pratiquants. Tout en nous concentrant sur ce problème, nous aimerions également porter notre attention sur la prévention de ce genre de problème. Ainsi, lors des sessions d'aujourd'hui et de demain, nous allons mettre beaucoup l'accent sur l'édification de la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, d'édifier la foi à son expiation, le commandement en tant que apôtre ordonné, je suis reconnaissant de pouvoir parler de lui. Le commandement du Seigneur de sanctifier le jour du sabbat et de le sanctifier est une responsabilité que nous prenons très sérieusement et littéralement. Si nous pouvons vraiment le faire, nous aiderons nos membres à édifier leur foi au Seigneur et à approfondir leur conversion à lui et à son Église. Si nous apprenons mieux comment sanctifier le jour du sabbat, notre foi augmentera partout dans le monde. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette formation de la conférence générale. La première présidence et le Collège des 12 ont passé de nombreuses heures ces derniers mois à examiner les recherches disponibles sur les points de doctrine et les principes de l'Église qui développent la foi en notre Père Céleste et au Seigneur Jésus-Christ et en son expiation. Comme vous le savez, nous continuons de nous préoccuper de la conversion durable, du respect des alliances, des familles multigénérationnelles et du renforcement spirituel des membres de l'Église. De tous les changements de règles ou d'organisation ou des formations doctrinales qui peuvent hâter l'œuvre du salut actuellement, nous avons déterminé que l'élévation de l'esprit et du pouvoir du jour du sabbat est ce qui ferait le plus pour rapprocher les familles et les membres du Seigneur Jésus-Christ. Le président Nelson a parlé de son souci pour les non-pratiquants et de la nécessité de fortifier la foi en Jésus-Christ en son expiation. Il a promis que si nous apprenons mieux comment sanctifier le jour du sabbat, notre foi augmentera partout dans le monde. Je suis certain que vous avez également remarqué que Frère Ballard a dit « De tous les changements de règles ou d'organisation ou des formations doctrinales qui peuvent hâter l'œuvre du salut actuellement, nous avons déterminé que l'élévation de l'esprit et le pouvoir du jour du sabbat est ce qui ferait le plus pour rapprocher la famille et les membres du Seigneur Jésus-Christ. » Dans cet effort mondial, le Bureau d'éducation de l'Église a spécifiquement demandé aux séminaires et instituts de religion d'aider à mettre de nouveau l'accent sur l'enseignement du principe de l'observance du jour du sabbat et des points de doctrine associés à la Sainte Seine, ainsi qu'engager les jeunes et jeunes adultes de l'Église à s'efforcer de mieux comprendre et mieux expliquer ces principes. Nous le ferons en mettant l'accent sur ces principes à mesure que nous les rencontrerons tout naturellement dans notre enseignement sur les Écritures et tout au long du cours. Quelle merveilleuse occasion nous avons d'unir nos efforts avec les personnes chargées de nous diriger en tant que prophètes, voyants et révélateurs. En le faisant, nous accomplirons mieux notre objectif d'aider les jeunes et les jeunes adultes à comprendre les enseignements et l'expiation de Jésus-Christ et à se reposer sur eux. Pour illustrer la façon dont nous pourrions enseigner les principes relatifs au sabbat et à la Sainte Seine pour que cela augmente la foi en Jésus-Christ, j'ai choisi des exemples principalement tirés de l'Ancien Testament, parce que beaucoup d'entre vous enseigneraient l'Ancien Testament dans les mois à venir. Un principe important relatif au jour du sabbat vient d'Exode 31. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Les enfants d'Israël observeront le sabbat comme une alliance perpétuelle. L'idée que le sabbat est un signe de l'alliance de Dieu envers nous est importante parce que chacun de nous rencontre un dilemme. Rien d'impur ne peut demeurer en présence de Dieu et nous savons que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La solution énoncée dans Doctrine et Alliance 60, verset 7, est, je cite, « Je suis capable de vous rendre saint ». Fin de citation. Et cela s'effectue bien sûr par l'intermédiaire de Jésus-Christ, la figure centrale du plan de rédemption du Père, ou comme l'apôtre Paul l'enseignait, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce prix était la vie, la souffrance et la mort du Fils parfait de Dieu. Et quelle est la preuve de ce rachat? Quel est le reçu de cette facture? Le sabbat est un signe perpétuel de l'accomplissement de l'alliance de Dieu envers ses enfants, le signe qu'il est capable de nous rendre saints. Le sabbat est non seulement la preuve du rachat, le signe que le Seigneur nous sanctifiera, mais c'est aussi le signe que nous lui donnons de ce que nous ressentons par rapport à ce qu'il a fait pour nous, ce que nous ressentons à propos de son sacrifice et ce que nous ressentons à propos de nos alliances. Lors de la dernière conférence générale de l'Église, le président Nelson enseignait, lorsque j'étais bien plus jeune, j'ai étudié des listes que d'autres personnes avaient faites concernant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire le jour de sabbat. Ce n'est que plus tard que j'ai appris dans les Écritures que mon comportement et mon attitude en ce jour-là étaient un signe entre moi et mon Père Céleste. Grâce à cette compréhension, je n'ai plus eu besoin de listes de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque je devais décider si une activité convenait au sabbat, je me demandais simplement, quel signe est-ce que je veux donner à Dieu? Cette question a rendu limpide mes choix concernant le jour du sabbat. Chaque choix concernant le sabbat est personnel. C'est une offrande individuelle, un signe de notre connaissance qu'il veuille nous rendre saints. Sans vouloir suggérer une liste de choses à faire et à ne pas faire, je voudrais dire que j'ai vu, partout dans le monde, des jeunes et des jeunes adultes qui ont choisi de sanctifier le sabbat. Beaucoup ont choisi de ne pas travailler le dimanche. D'autres se sont fixés l'objectif de ne pas étudier le dimanche. Une jeune femme en Thaïlande a pris le risque de perdre ses amis parce qu'elle a choisi de ne pas aller à des activités sociales le jour du sabbat. Un concept que ses amis n'avaient jamais entendu auparavant. Je connais un joueur de football prometteur en Californie qui a décidé, malgré la grande pression de ses coéquipiers et entraîneurs, et au risque de perdre de bourses d'études d'une grande valeur, de ne participer à aucune rencontre sportive le jour de sabbat. Je suis certain que le Seigneur récompensera ces merveilleux jeunes parce qu'ils l'ont honoré en choisissant de sanctifier son saint jour. Nous pouvons enseigner à nos élèves que notre attitude et nos actes pendant le sabbat sont, pour le Seigneur, un signe de ce que nous pensons de nos alliances et que notre respect d'un vrai sabbat reflète notre respect de toute l'alliance. Un autre principe de l'Ancien Testament, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Exode 16 est une magnifique illustration de ce principe. Quand les enfants d'Israël se sont plaints de la famine et voulaient retourner aux pots de viande d'Égypte, le Seigneur a dit, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Ces versets illustrent au moins deux autres principes. Le premier est que le Seigneur met à l'épreuve notre obéissance concernant le sabbat. Le deuxième est que le Seigneur nous prépare un moyen pour que nous puissions respecter ses commandements. Pensez à la manière dont cela accomplit la promesse que le sabbat sera un délice. Si vous avez travaillé chaque jour, ramassant de la manne pour rester vivant, et qu'un jour le Seigneur dise, « Tu n'as pas travaillé aujourd'hui, mais je te nourrirai comme si c'était le cas », ne serait-ce pas un délice? J'ai entendu une version moderne de cette histoire racontée par frère et sœur Beecher, un couple qui a fait une mission en Afrique. Ils ont dit, « Nous vivons dans un endroit très pauvre du Kenya, à la frontière de l'Ouganda. » Ils ont raconté l'histoire d'un président de branche, Anthony Matande. Il vit avec sa famille élargie sur une grande exploitation. C'est un paysan, c'est un jeune père à la tête d'une petite famille. Des membres de sa branche lui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'église le dimanche parce qu'ils ne veulent pas laisser leur maison de crainte que leurs voisins ne leur volent leur récolte. C'est un problème très grave. En fait, les gens commencent à planter quand leurs voisins plantent pour diminuer les chances qu'on leur prenne leur récolte précoce. Ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils doivent travailler, car ils sont très pauvres et ils doivent protéger leur récolte. Alors le président Matende poursuit, « Je leur dis que je quitte ma maison chaque dimanche et que je reste à l'église de longues heures. Je ne travaille pas le dimanche, je m'occupe de mes appels, j'adore le Seigneur, je fais ce que je dois faire. Quand je rentre à la maison, j'ai souvent constaté que mes voisins m'ont volé mon maïs, mes poulets, mes œufs, mes fruits, parce qu'ils ont faim et qu'ils n'ont pas de nourriture. Pourtant, quand vient le temps de la récolte, je suis béni parce que ma terre produit plus que la leur, alors qu'ils travaillent le dimanche et ils viennent me demander de la nourriture. » Un autre président branche a dit, « J'ai que 10 acres de maïs et l'autre en ont moins. Mais je suis capable d'avoir plus de récolte sur un terrain moins grand que les autres. » Les voies du Seigneur sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Il en est de même pour son arithmétique. Elle diffère de la nôtre. C'est vrai pour la dîme, non? Avec la dîme, 10 moins 1 ne fait pas 9. Le Seigneur nous bénit en nous accordant ce dont nous avons besoin et plus encore. C'est également vrai pour le sabbat. Il y a 7 jours dans une semaine, mais travailler 6 jours au lieu de 7 nous permet d'avoir plus, pas moins, de ce dont nous avons vraiment besoin. Vous pouvez presque entendre le Seigneur dire, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Non seulement le sabbat est un jour de repos de nos labeurs physiques, mais c'est aussi un jour de régénération spirituelle. C'est un jour de repos des soucis du monde. Joseph F. Smith enseignait que le repos du Seigneur signifie entrer dans la connaissance et l'amour du Seigneur, avoir foi en ses desseins et en son plan, en n'étant plus troublé par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Pensez au pouvoir de cette promesse en relation avec notre priorité d'aider nos élèves à rechercher la vérité et à discerner la vérité de l'erreur. Je dois aussi parler d'une autre bénédiction d'une très grande importance mentionnée dans ces passages scripturaires. Exode 31 utilise l'expression « parmi vos descendants. Et Ésaïe 58 fait la promesse que le Seigneur fera jouir Israël de l'héritage de Jacob. En étudiant ces versets et la formation fournie par nos dirigeants de l'Église, vous verrez que l'une des plus grandes bénédictions de la sanctification du jour du sabbat sera pour vos enfants et vos petits-enfants. Chaque dimanche est une occasion d'enseigner à vos enfants à quoi vous accordez la priorité dans la vie et que vous êtes prêts à sacrifier vos désirs personnels pour respecter les commandements du Seigneur. Quelle bénédiction ce sera pour eux! Cela aidera à créer des familles multigénérationnelles de disciples fidèles de Jésus-Christ. Vu cette bénédiction et les autres associés au sabbat, comment peut-il ne pas être un délice? Un autre principe concernant le jour du sabbat est énoncé dans notre première alliance 59. Et afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. En mon saint jour. L'Ancien Testament donne beaucoup d'occasions d'enseigner ce principe. Par exemple, avec l'alliance abrahamique, vous aurez l'occasion d'enseigner aux jeunes d'être dans le monde, mais pas du monde. Vous aurez une autre occasion quand vous enseignerez Samuel, le chapitre 8. Spencer Kimball utilise ce chapitre pour enseigner une leçon importante. Il a dit, « Le Seigneur et Samuel, son prophète, étaient déçus et peinés. Mais le peuple réclamait un roi, affirmant, « Pour que nous soyons comme toutes les nations, nous ne sommes pas si différents aujourd'hui. Nous voulons le glamour et la vanité du monde, sans toujours nous rendre compte des conséquences de notre bêtise. Les non-membres cherchent le divertissement pendant le sabbat. Nous voulons être divertis, même si dans de nombreux cas, cela signifie abandonner les activités du sabbat et enfreindre le jour saint du Seigneur. Nos contemporains ont des mariages païens. Nous devons copier leur style et suivre leur exemple, même si cela rend le monde attrayant et fait perdre de vue la solennité du vrai mariage. Les styles sont créés par le vulgaire et les gens qui recherchent frénétiquement l'argent et vont d'un extrême à l'autre pour rendre les garde-robes actuelles démodées. Nous préférions mourir que de devenir démodés. Nous devons avoir un roi comme les autres nations. Le Seigneur a dit qu'il aura un peuple à part, mais nous ne souhaitons pas être à part. Quand nos saints des derniers jours se tiendront-ils sur leurs pieds? Établiront-ils leurs propres principes? Suivront-ils les bons modèles? Et mèneront-ils leur vie glorieuse en accord avec les modèles inspirés de l'Évangile? Alors que nos jeunes luttent avec les philosophies, les traditions, les principes et les styles du monde, aidez-les à voir que nous devons être un peuple à part, libéré de l'influence du monde. Aidez-les à voir que sanctifier le sabbat est une façon de le faire, une façon de nous préserver des souillures du monde. Parlons maintenant des objectifs de la Sainte Cène. Nous prenons la Sainte Cène en souvenir du corps et du sang du Fils. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même a donné la Sainte Cène quand il l'a personnellement instaurée en Terre Sainte et en Amérique. Chaque semaine, cela doit être un moment important. La Sainte Cène est une occasion de nous souvenir de lui et de tout ce que son corps et son sang représentent quant à sa résurrection littérale, à la rédemption de nos péchés et à la grâce qui nous suffit pour faire face à toutes les épreuves de la vie. Nous témoignons à Dieu, le Père éternel, que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de son Fils et que nous respecterons ses commandements, renouvelant ainsi toutes nos alliances. Imaginez si chacun de nous faisait sincèrement cela chaque semaine. La réunion de Sainte Cène serait un festin spirituel dont le clou serait la promesse du Seigneur que nous aurons toujours son Esprit avec nous, nous apportant espoir, guérison, consolation et pardon. Il y a des occasions pour nous tous d'avoir le pardon et la guérison et de pardonner. Et de laisser partir les sentiments d'amertume que nous avons retenus trop longtemps. Et l'expiation et la Sainte Cène nous en donnent l'occasion maintenant. Ces occasions d'enseigner les buts de la Sainte Cène et dans toutes les Écritures et dans tous nos cours nous aideront à y parvenir. Je vous suggère deux moyens. Le premier, chaque fois que nous enseignons un symbole du Sauveur, comme Elder Frère Rose nous a enseigné, nous avons une occasion d'enseigner les buts de la Sainte Cène. Et le second, quand nous enseignons les principes associés aux alliances, nous avons l'occasion d'appliquer ces principes à la Sainte Cène. Je vais donner un exemple pour chacun de ces deux types d'occasions. une fois encore tiré de l'Ancien Testament. Les symboles, le premier exemple, illustre l'utilisation de ces symboles du Sauveur est tiré du premier chapitre de Lévitique. Là, le Seigneur enseigne aux enfants d'Israël à faire volontairement une offrande au Seigneur, qui était un animal mâle sans tache, qui serait accepté pour accomplir l'expiation pour la personne qui venait se livrer au culte. La personne tue ensuite l'animal et les prêtres aspergeaient de sang l'autel. Il est facile de voir le symbolisme et ses liens avec la Sainte Seine et de comprendre que pendant que la personne était sanctifiée, le Seigneur lui-même prendrait sur lui ses afflictions, ses peines et ses péchés. Je pense que c'est un paradoxe frappant que les justes soient ceux dont les vêtements sont blancs grâce au sang de l'agneau, mais que les habits du Seigneur seront rouges. En effet, il a dit, « J'ai fait jaillir leur sang sur mes vêtements et j'ai taché tous mes habits. » Quelle vision de voir le Seigneur en rouge, entouré d'anges en habits blancs. Du fait de la souffrance de Jésus-Christ, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la naine. Ensuite, l'offrande était coupée en morceaux, la tête, les organes internes, les jambes et les graisses. La tête représentait nos pensées, les organes internes, notre cœur et nos sentiments, et les jambes, nos actes. Le symbolisme nous rappelle la Sainte Seine au cours de laquelle nous nous engageons à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toute notre force. Ou en d'autres mots, comme l'enseigne Lynn et Maxwell, le véritable sacrifice personnel n'a jamais consisté à placer un animal sur l'autel. En fait, c'est la volonté de déposer l'animal qui est en nous sur l'autel et de le laisser consumer. Nous pouvons également utiliser le rôle des prêtres, les fils d'Aaron, pour enseigner à nos jeunes gens l'importance du rôle qu'ils remplissent pendant la Sainte Cène. Enseignez à nos prêtres qu'ils sont les fils d'Aaron, qu'ils doivent être différents du monde et qu'ils représentent le Sauveur. Enseignez aux instructeurs de la prêtrise d'Aaron qu'ils se tiennent à la place de Joseph d'Arimathée quand ils préparaient le corps du Christ. Certains d'entre vous ont déjà vécu l'expérience sacrée de préparer un corps pour un enterrement. Pouvez-vous imaginer l'expérience sacrée de Joseph d'Arimathée? Aidez les jeunes gens à comprendre que la réunion de Sainte-Cène est une cérémonie commémorative en souvenir du Sauveur. Un président de Pieux a enseigné cette idée à un collège d'instructeurs. Désormais, le président du collège des instructeurs, un jeune de 15 ans, fait venir tout son collège 30 minutes avant la réunion de Sainte-Cène chaque dimanche pour lire les Écritures et prier ensemble. Et ensuite, comme collège, il prépare la Sainte-Cène. Nous pouvons aussi enseigner à nos diacres le rôle qu'ils remplissent. Pouvez-vous vous imaginer portant le cercueil aux funérailles du Sauveur? Aidez-les à savoir qu'ils honorent leur prêtrise de façon qui aide chacun d'entre nous à accéder au sang de Gethsémané et à recevoir le pardon et la guérison qu'il procure. Une autre occasion serait d'enseigner, grâce au livre d'Osée, les symboles d'un mari, de sa femme, la trahison de celle-ci, l'épreuve du mariage dans l'alliance, pour nous enseigner notre relation d'alliance avec notre Père Céleste. Le Seigneur a dit à Osée, « Prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. » Osée donc prit Gomer pour femme. Mais après l'avoir prise, avoir subvenu à ses besoins et lui avoir montré son amour pour elle, elle est retournée à son ancien mode de vie et elle l'a trahi. Que ressentiriez-vous si vous étiez Osée? Et pourtant, écoutez de quelle façon Osée a réagi à sa trahison avec ces mots. « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, je lui donnerai des vignes. » Puis l'Écriture nous dit qu'un changement de point de vue se produit lorsqu'Osée et Gomer sont comparés au Seigneur et à l'Alliance d'Israël quand il nous dit « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Voir ce qu'Osée a ressenti à propos de ses alliances et comprendre que c'est ce que pense le Seigneur de ses alliances avec nous a été une grande bénédiction pour moi. J'ai aimé pour la première fois cette histoire grâce à un discours donné par Henry Eyring. Certains de vous devaient être présents lorsqu'il a décrit son expérience d'enseigner l'Ancien Testament en séminaire. Pour plus de raisons que je ne peux l'exprimer, à l'époque où j'enseignais l'histoire d'Osée, j'ai eu un sentiment nouveau et plus puissant. Il ne s'agissait pas d'une histoire d'accord commercial entre deux associés. C'était une histoire d'amour. C'était une histoire d'alliance conjugale, liée par l'amour, par un amour inébranlable. Ce que j'ai ressenti, et cela a augmenté au fil des ans, c'est que le Seigneur, avec lequel j'ai la bénédiction d'avoir contracté des alliances, m'aime, vous aime et aime les gens que nous instruisons avec une constance qui m'émerveille et que je souhaite imiter de tout mon cœur. Il y a bien plus à dire sur cette histoire, mais je vous laisse lire cet incroyable discours du président Eyring, donné lors du colloque du département d'éducation de l'Église en 1995. Ce que je veux dire, c'est que nous avons l'occasion d'enseigner les alliances. Et quand nous le faisons, aidons nos élèves à ressentir ce que le président Eyring a ressenti, que Dieu nous aime et qu'il met ses délices à nous bénir par nos alliances. Quand nous comprenons que les ordonnances et les alliances sont un symbole de l'amour de Dieu et de son désir de nous exalter, nous sommes changés pour toujours par la Sainte Seine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si les jeunes et les jeunes adultes de l'Église assistaient à la réunion de Sainte Seine chaque semaine et se souvenaient vraiment du Sauveur et en de la reconnaissance pour son expiation, témoignant au Père qu'il porterait le nom du Sauveur chaque jour et s'efforçant d'être digne du don du Saint-Esprit, en gardant ses alliances? Puis pendant la semaine, ils assisteraient au cours de séminaires et de l'Institut qui mettraient l'accent sur le rôle central du Sauveur dans le plan de notre Père Céleste aimant et qui leur rappellerait leur engagement d'être des disciples de Jésus-Christ. Et si dans leur foyer, ils parlaient de cela avec leurs parents et qu'ensemble, ils prenaient des dispositions pour faire du sabbat le centre de leur semaine, nous imaginons difficilement les bénédictions du Sauveur qui nous attendent. Je termine en vous témoignant que pour enseigner ce point de doctrine avec puissance, nous devons d'abord le mettre en pratique. Si nous sanctifions le jour du sabbat et que nous nous souvenons du Sauveur quand nous renouvelons nos alliances chaque dimanche, le sabbat deviendra un délice pour nous et sera une bénédiction pour nous et notre famille pendant des générations. Et cela fortifiera de façon importante notre capital d'inspirer nos élèves bien-aimés à reconnaître de quelle façon le fait de sanctifier le sabbat les aidera à comprendre et à se reposer sur les enseignements de l'expiation de Jésus-Christ. Cela approfondira leur reconnaissance et leur engagement vis-à-vis de leurs alliances de disciples du Sauveur du monde. Puissions-nous toujours nous souvenir de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The spirit here is so sacred, and I am so grateful. Like you, I am grateful for all that I've been taught. In one of Mormon's final epistles,
dans l'une de ses dernières épîtres, Mormon enseigne : car voici, sachant tout étant d'éternité en éternité, voici Dieu a envoyé des anges pour servir les enfants des hommes, pour rendre manifeste ce qui concerne la venue du Christ. Et dans le Christ, tout ce qui était bon devait venir. C'est pourquoi, par le ministère d'ange et par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les hommes commencèrent à faire preuve de foi au Christ. Et ainsi, par la foi, ils se saisirent de tout ce qui est bon. Selon moi, vous, instructeurs des séminaires et instituts, matinales ou hors école, au foyer, à l'église, en secondaire, à l'université, vous êtes parmi les anges que Dieu a envoyés pour servir ses enfants, afin qu'ils fassent preuve de foi au Christ et se saisissent de tout ce qui est bon. Je vous suis reconnaissante d'enseigner sa doctrine pure par le pouvoir du Saint-Esprit. Merci d'être là jour après jour, matin et soir, annonçant la parole de Dieu qui est une puissance de Dieu pour le salut. J'exprime ma reconnaissance envers vos formidables conjoints, vos femmes et vos maris, qui sont aussi des anges par leur bonté aimante et leur influence durable. C'est un grand honneur d'annoncer la parole de Dieu, d'être un de ses témoins et d'enseigner la vérité éternelle. Le prophète Ésaïe a annoncé la parole du Seigneur à tout son peuple de l'Alliance. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Afin que vous le sachiez, c'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. C'est un honneur sacré d'aider la génération montante à apprendre la parole de Dieu, afin qu'elle fasse preuve de foi et devienne témoin du Christ. Les jeunes hommes et les jeunes femmes assis dans les classes de séminaires et d'instituts du monde entier ont fait alliance d'aimer et de servir Dieu et d'être ses témoins. Par leur foi au Christ, ils ont été baptisés et ont reçu le Saint-Esprit afin de connaître la vérité et parler dans la langue des anges. Ils sont les enfants des prophètes de la maison d'Israël. Ils sont de l'alliance que le Père a faite, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Par la foi, chaque jeune homme et chaque jeune femme a la possibilité de parler au nom du Christ, par l'Esprit, et d'être son témoin en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux. Aujourd'hui, réfléchissons à ce que l'on peut faire dans un cours de séminaire ou d'institut pour aider les jeunes de la génération montante à vraiment devenir témoins de Dieu. Il est certain qu'ils en ont le désir. En mai de cette année, en préparation de la rencontre Facebook face à face avec frères et sœurs Bedna, les jeunes du monde entier leur ont envoyé plus de 11 000 questions. Beaucoup voulaient savoir comment répondre à un ami ou à un membre de leur famille pour lui parler des enseignements de l'Évangile du Christ, les lui faire comprendre et les défendre. Il voulait savoir quoi dire et quoi faire. Frère Bednar a expliqué que sa femme et lui ne seraient pas en mesure de répondre à toutes les questions, disant qu'il n'était ni assez intelligent ni assez expérimenté pour cela. Mais il a dit aux jeunes qu'en communiquant avec les autres, en recherchant la compagnie du Saint-Esprit, ils recevraient des pensées, des sentiments et de l'inspiration par le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'instructeur. Son appel divin est d'enseigner, de témoigner du Père et du Fils et de révéler la vérité de toutes choses. Quel don merveilleux pour un jeune que de recevoir par l'Esprit la connaissance certaine que Dieu est le Père et qu'il les connaît, les aime et a un dessein pour eux. Quel don merveilleux pour un jeune que de recevoir par l'Esprit la connaissance certaine que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que par la foi en lui et en son expiation, il peut se repentir et être purifié du péché, guérir de toute douleur et accomplir sa destinée divine. L'Esprit est la langue de l'amour de Dieu. Nous prêchons l'Évangile par l'Esprit, afin que nos jeunes reçoivent par l'Esprit, afin qu'ils voient, ressentent, sachent et témoignent du Sauveur et soient ses témoins comme les prophètes l'ont prédit. Frères et sœurs, j'ai beaucoup à apprendre sur l'enseignement et l'apprentissage, mais je sais ceci. Nos prophètes, voyants et révélateurs actuels, nous montrent ce que nous pouvons enseigner et apprendre avec un plus grand pouvoir de conversion et dans un but bien plus important. Récemment, au centre de formation missionnaire de Provo, j'ai regardé des apôtres du Seigneur mettre en pratique des principes d'enseignement et d'apprentissage qui ont permis au Saint-Esprit de parler au cœur et à l'esprit des présidents de mission et de leurs femmes, individuellement et personnellement, pour répondre à leurs questions et distiller en eux l'inspiration pour satisfaire leurs besoins. Les dirigeants de l'Église ne se contentaient pas de parler en chair, comme cela peut être le cas dans certains cadres. Ils faisaient la démonstration de modèles établis par le Seigneur pour l'apprentissage par l'étude et aussi par la foi. Le Seigneur a demandé, désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent ce qu'elle dit afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous et que chacun ait un droit égal. Le but de l'apprentissage que le Seigneur décrit est d'inviter l'Esprit à être l'instructeur afin que nos jeunes reçoivent par inspiration les réponses à leurs questions et que le Saint-Esprit leur montre tout ce qu'ils doivent faire. Premièrement, préparez-vous à apprendre. Presque tout ce que nous faisons dans la vie nécessite une grande préparation. Pour obtenir une instruction éternelle, nous devons faire plus que venir en classe. Le Sauveur a enseigné aux Néphites qu'ils devaient méditer sur ses paroles et prier pour obtenir la compréhension. Jeune homme, Joseph Smith a une vision de Dieu le Père et Jésus-Christ parce qu'il avait étudié les Écritures et réfléchi encore et encore aux paroles qu'elles contenaient. Joseph Smith a reçu la vision de la rédemption des morts parce qu'il avait médité sur des versets d'Écriture qu'il avait lus et étudiés. Nous invitons les élèves à prier et réfléchir aux paroles du Christ avant même d'entrer en classe pour que leur esprit et leur cœur soient préparés à recevoir la connaissance par le pouvoir du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, « Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole, et alors ta langue sera déliée. Puis si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. » Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Deuxièmement, communiquer pour édifier. En donnant des occasions de participation en classe, nous permettrons aux jeunes de s'exprimer. Quand ils apprennent ensemble, grâce aux paroles des prophètes, répondent à des questions inspirées, discutent de leurs pensées et de leurs sentiments, et répondent aux questions et aux soucis de leurs camarades, l'Esprit du Seigneur éclaire leur esprit et élargit leur compréhension. Ils apprennent à parler au nom du Seigneur avec prudence et sous la contrainte de l'Esprit. Dire ce que l'Esprit du Seigneur leur a enseigné les aide à surmonter leurs peurs et à se fortifier les uns les autres pour défendre de grands principes moraux et justes. Ils se préparent à répondre aux personnes qui mettront leur foi en question, se moqueront d'eux ou les accuseront d'être vieux jeu ou étroits d'esprit. Il est intéressant de noter à combien de reprises dans les Écritures un prophète nouvellement appelé s'est senti incapable de parler. Enoch s'est exclamé, « Je ne suis qu'un jeune garçon et tout le peuple me hait. » Mais le Seigneur ne semble pas se soucier de la faiblesse ou des obstacles. Il répond, « Va faire ce que je t'ai commandé, ouvre la bouche, elle sera remplie et je te donnerai de t'exprimer. » Le Seigneur attend de tous ceux qui respectent leurs alliances qu'ils soient ses témoins. Il dit, « Ouvrez la bouche et elle sera remplie et vous deviendrez comme Néphi autrefois. » Concernant Néphi, son père Léhi a expliqué, « Mais voici, ce n'était pas lui, mais c'était l'Esprit du Seigneur qui était en lui, qui lui ouvrait la bouche pour le faire parler, de sorte qu'il ne pouvait pas se taire. » Après le foyer, il n'y a sans doute pas de meilleur endroit pour donner aux jeunes le pouvoir de parler au nom du Seigneur, en solennité de cœur, dans l'esprit d'humilité, qu'avec d'autres jeunes dans les cours de séminaires et d'instituts. Nous les invitons à communiquer pour édifier, afin qu'ils soient toujours prêts à se défendre avec douceur et respect devant quiconque leur demande raison de l'espérance qui est en eux. Troisièmement, invités à agir. C'est quand ils vivent l'Évangile que les paroles que disent les jeunes sonnent vraies. L'invitation à agir est une invitation à respecter leurs alliances pour suivre le Sauveur et agir en ne commettant ni hypocrisie ni tromperie devant Dieu. C'est une invitation lancée aux jeunes à répondre aux inspirations de l'Esprit et à mettre en pratique les principes de l'Évangile de façon concrète. Le Sauveur a enseigné, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine. Pour être témoin de Dieu, nos jeunes doivent vivre conformément à ce qu'ils connaissent. Comme vous, j'ai observé la foi de nos jeunes qui comprennent ce que signifie œuvrer avec zèle et faire beaucoup de choses et produire beaucoup de justice. J'ai pu le voir lors d'une reconstitution de l'exode des pionniers à laquelle j'ai participé. Les jeunes ont tiré des charrettes à bras sur une partie de la première piste des pionniers au Wyoming, États-Unis. Ils sont arrivés à Gravel Hill, la côte la plus longue et la plus raide depuis le départ de Winter Quarters. Des années auparavant, le 9 juillet 1847, le premier convoi de pionniers de Brigham Young avait mis de grandes chaînes aux roues de ses charrettes pour les empêcher de se retourner dans la descente. Mais pour les jeunes familles de pionniers qui tiraient les charrettes à bras ce jour-là, un petit nombre de membres de chaque groupe guidaient les charrettes à l'avant, pendant que les autres les retenaient à l'arrière pour les empêcher de tanguer dangereusement sur cette pente abrupte. C'était effrayant. Le terrain était instable et hasardeux, et s'accrocher à ces charrettes nécessitait toute l'énergie qu'ils avaient à donner. Je n'étais d'aucune aide. J'ai donc attendu au pied de la colline, priant avec ferveur en mon fort intérieur pour que tout se passe bien. Roulant difficilement sur les larges rochers, la première charrette à bras est descendue sans dommage. Alors que je me tournais pour regarder descendre la charrette suivante, j'ai vu quatre jeunes hommes courir, me dépasser et remonter la colline. Mes yeux se sont remplis de larmes et mon cœur a éclaté de gratitude quand j'ai compris que dès que leur charrette était en sécurité sur un terrain stable, sans un mot, ces jeunes gens fidèles ont remonté la pente en courant pour aider la charrette suivante. Encore et encore, ils ont aidé à faire descendre les charrettes à bras sans dommage. Leurs efforts ont inspiré plusieurs autres à faire de même et bientôt, toutes les charrette était en route vers le lieu du camp du soir. Ce que nos jeunes ne savaient pas, c'est que leur exemple de justice sur Gravel Hill et d'autres moments de témoignage en parole et en actes ont été vus par un jeune garçon qui n'était pas de notre foi. Jack a dit plus tard que, grâce à cette randonnée, il avait découvert que les Mormons ne sont pas les hypocrites qu'ils pensaient. Il a vu et ressenti qu'ils étaient sincères. Ils vivaient leurs croyances. Jack a ressenti l'esprit et a l'intention de suivre les leçons missionnaires. Nos jeunes n'ont pas à tirer des charrettes à bras sur des côtes rocheuses pour être témoins de Dieu, mais ils font souvent face à une grande opposition alors qu'ils s'efforcent de prendre parti pour la vérité et la justice. Les instructeurs peuvent aider chaque jeune homme et chaque jeune femme de leur classe à faire preuve de foi en Christ et à recevoir le Saint-Esprit. Aidez-les à se préparer, à apprendre, en se faisant un festin des paroles du Christ. Communiquez pour les édifier en disant les paroles du Christ. Et invitez-les à agir en obéissant aux paroles du Christ afin qu'ils soient remplis de l'Esprit du Seigneur. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, ils peuvent être les témoins du Christ qui disent ce qu'il dirait, font ce qu'il ferait et deviennent ce qu'il est. Je témoigne que Dieu est notre Père céleste et que son amour pour chacun de nous est parfait. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, notre Sauveur et Rédempteur, et que son amour pour nous est parfait. Je témoigne que, dans leur amour parfait, le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith, le prophète, et ont rétabli les lois et les ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre. Thomas S. Munson est un véritable prophète qui guide aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je témoigne que si nous faisons preuve de foi en Christ et recevons le Saint-Esprit, nous pouvons être tous ensemble ses témoins. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Frères et sœurs, je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous au cours de cette émission mondiale. Je veux que vous sachiez que j'éprouve un grand amour pour vous, que je sais être un don de notre Père Céleste et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'ils vous aiment et qu'ils veulent que je vous voie comme ils vous voient, et que je vous aime comme ils vous aiment. C'est pour cela qu'ils m'ont accordé ce don. Je prie pour que vous ressentiez mon amour et le leur aujourd'hui. Je prie aussi pour que le Saint-Esprit soit avec nous dans notre réflexion sur les implications d'un message simple. Le message m'a été donné personnellement, mais je ressens que je dois vous en faire part. Le voici. Quel que soit le niveau de spiritualité qui est le nôtre actuellement, quel que soit notre degré actuel de foi en Jésus-Christ Quelle que soit la force de notre engagement et de notre consécration, quel que soit notre niveau d'obéissance, d'espérance ou de charité, quel que soit le niveau de compétence et de capacité professionnelle que nous avons obtenu, cela ne suffira pas pour l'œuvre qui nous attend. Frères et sœurs, nous aurons besoin, vous et moi, d'être meilleurs que nous le sommes maintenant. Les Écritures nous enseignent que le monde est maintenant agité et continuera à l'être. La méchanceté, les ténèbres augmenteront. Pourtant, dans ce monde de plus en plus sombre, la lumière divine sera plus présente. Le Seigneur Jésus-Christ a une grande œuvre à nous faire accomplir auprès de la génération montante. C'est une œuvre plus grande que ce que nous avons jamais accompli. Le Seigneur œuvre avec puissance pour renforcer l'enseignement et l'apprentissage dans son Église vraie et vivante. Il hâte son œuvre. Et il prépare la terre, son royaume et nous-mêmes pour son retour. Tout cela fait partie d'un modèle merveilleux que nous voyons depuis le début du rétablissement. En 1820, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus au jeune Joseph Smith. Depuis ce jour, dans le bosquet sacré, Jésus-Christ a édifié son Église et son peuple, ligne sur ligne, précepte sur précepte, pas après pas. Voici ce qu'il a dit. « Car je me susciterai un peuple pur qui me servira avec justice, afin que l'œuvre du rassemblement de mes saints continue, que je les édifie pour mon nom en des lieux saints. Car le temps de la moisson est venu, et ma parole doit s'accomplir. Mon peuple doit être mis à l'épreuve en tout, pour qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai pour lui, c'est-à-dire la gloire de Sion. C'est le plan du Seigneur. Il suscite, édifie et prépare son peuple et son Église. Ce modèle se voit de nos jours dans l'appel que Thomas Monson a lancé à nous tous d'élever et d'édifier le royaume de Dieu. Écoutez les invitations qu'il nous lance à faire plus et à faire mieux dans l'œuvre du salut. Je vais vous lire quelques citations de discours du président Monson qu'il a donné à l'occasion de conférences générales. Nous lançons de nouveau cette invitation sincère. Revenez. Nous vous tendons la main avec l'amour pur du Christ. Nous disons à ceux dont l'esprit est blessé ou qui sont en proie à des problèmes et à la peur, laissez-nous vous aider, vous réconforter et apaiser vos craintes. Si l'un d'entre vous est tombé dans l'apathie à propos de ces visites d'enseignement au foyer, je vous dis qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour vous réengager. Il y a des pas à affermir, des mains à saisir, des esprits à encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sauver. À partir de ce jour, tous les jeunes hommes dignes et capables qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires ou son équivalent auront l'option d'être recommandés pour le service missionnaire à partir de l'âge de 18 ans au lieu de 19. Les jeunes filles capables et dignes qui ont le désir de servir peuvent être recommandées pour le service missionnaire à partir de l'âge de 19 ans au lieu de 21. Notre problème est d'être des serviteurs plus productifs dans la vigne du Seigneur. Cela s'applique à nous tous, quel que soit notre âge, pas seulement à ceux qui se préparent à faire une mission à plein temps, car nous avons tous reçu le commandement de prêcher l'Évangile du Christ. C'est maintenant que les membres et les missionnaires doivent s'unir et travailler ensemble, œuvrer dans la vigne du Seigneur afin de lui amener des âmes. Il ne suffit pas de souhaiter. Le Seigneur veut que nous pensions, que nous agissions, que nous nous consacrions. Je vous témoigne que les bénédictions qui nous sont promises sont au-delà de toute mesure. Même si les nuages annonciateurs d'orage se rassemblent, même si la pluie se déverse sur nous, rien dans ce monde ne pourra nous vaincre. Mes chers frères et sœurs, ne craignez pas. Prenez courage. L'avenir est aussi brillant que votre foi. Mes frères et sœurs, c'est l'appel que nous lance le prophète. Au département d'éducation de l'Église, cela signifie que nous avons besoin de serviteurs du Seigneur dignes de confiance, prêts à œuvrer dans les séminaires et instituts, dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de l'Église. Chaque emploi, chaque appel, chaque personne du département d'éducation de l'Église et chacun d'entre nous a besoin d'être meilleur qu'il ne l'a jamais été. Je crois qu'il y a deux raisons à cela. Raison numéro un, nous devons éduquer la génération montante plus profondément et avec plus de puissance que jamais auparavant, ou plus que personne ne l'a jamais fait. L'apprentissage profond augmente le pouvoir de savoir, de faire et de devenir. Cela signifie plus de connaissances, mais aussi une meilleure compréhension venant du cœur. Cela signifie une plus grande compétence et une plus grande capacité d'agir, plus de force de caractère, donc d'intégrité, de courage et de gentillesse. L'apprentissage profond est intrinsèquement une expérience spirituelle. Ceux qui font partie de la génération montante n'apprendront plus en profondeur que si les pouvoirs rédempteurs et fortifiants du Christ opèrent dans leur vie, les purifiant, les sanctifiant et les qualifiant, de sorte qu'ils reçoivent sa grâce et les dons qu'il a préparés pour eux. Ils doivent œuvrer diligemment et rechercher la connaissance, mais ils doivent aussi être purifiés par le sang expiatoire du Christ afin de recevoir plus de lumière et être instruits par le Saint-Esprit. Un enseignement inspiré qui mène à un apprentissage profond est aussi une expérience spirituelle. Nous avons besoin que l'expiation du Sauveur opère avec plus de puissance dans notre vie. Nous devons nous qualifier pour recevoir les bénédictions et les dons purificateurs et sanctificateurs du Saint-Esprit afin de pouvoir aider la génération montante à apprendre plus profondément. La génération montante a besoin de cet apprentissage en profondeur parce que le monde qu'elle affrontera sera à la fois magnifique et terrible. La lumière et le pouvoir des cieux seront plus abondants, mais il y aura encore plus de méchanceté, de troubles et de confusion. Les jeunes auront besoin d'être fermement ancrés dans les vérités simples et pures de l'Évangile. L'Évangile devra être au plus profond de leur cœur et ils auront besoin de ce que Russell Nelson a appelé une foi infaillible au Christ. Pourquoi avons-nous besoin de cette foi infaillible? Parce que des jours difficiles nous attendent. À l'avenir, il sera rarement facile ou populaire d'être un saint des derniers jours fidèle. Nous serons tous mis à l'épreuve. L'apôtre Paul a averti que dans les derniers jours, les personnes qui suivront diligemment le Seigneur seront persécutées. Cette persécution peut soit vous réduire à une faiblesse silencieuse, soit vous motiver à mener une vie quotidienne plus exemplaire et plus courageuse. Raison numéro deux. Je crois que les jeunes qui viendront à nous seront prêts à recevoir bien plus que ce que nous leur donnons maintenant et le voudront. De plus, certains d'entre eux auront besoin de plus parce que leur foyer ne leur aura fourni ni ce qu'ils désirent, ni ce dont ils ont besoin. Je ne dis pas que les jeunes doivent s'aventurer dans des herbes folles de la complexité et de la conjecture. Ils auront besoin des vérités simples et pures de l'Évangile, enseignées avec plus d'amour et plus de pouvoir du Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple de points de doctrine simples et purs que nos étudiants doivent apprendre de manière bien plus profonde. Depuis 7 ans, l'Université Brigham Young Idaho exige que les étudiants suivent un cours sur la famille dans leur programme de base. Ce tel cours fait partie de la nouvelle série pierre angulaire obligatoire pour tous les étudiants de l'Institut des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du DEE. Comme tous les étudiants de l'Université Brigham Young Idaho suivent ce cours, l'université a eu un aperçu de ce que pensent et ressentent les étudiants au sujet de la doctrine du mariage, telle qu'elle est présentée dans la Déclaration sur la famille. Ce que les enseignants ont découvert est assez troublant. Beaucoup d'étudiants, 40 à 50%, ont au mieux une compréhension incomplète et au pire, une mauvaise compréhension de cette doctrine des plus importantes. Il s'agit là de bons jeunes saints des derniers jours, pratiquants, diplômés du séminaire, et qui n'ont pas suffisamment appris la doctrine du mariage, dans leur foyer, ou au séminaire, à l'école du dimanche, dans leur classe de jeunes filles ou leur collège de prêtrise, et dans certains cas, même pas en mission. Non seulement les étudiants ont besoin de mieux connaître la doctrine du mariage, mais ils doivent aussi la comprendre avec le cœur. Ils ont besoin d'un témoignage spirituel de sa véracité et ont besoin d'agir conformément à ce témoignage de manière à se préparer maintenant à être des maris ou des femmes, des pères et des mères dans une famille éternelle. Ils ont également besoin de savoir comment parler de la doctrine du mariage avec leurs amis et avec les personnes qui ne partagent pas leurs croyances. Ils ont aussi besoin d'accroître leur capacité de discerner la vérité de l'erreur. Ils ont besoin d'une plus grande foi en Jésus-Christ et d'une plus grande espérance en lui. C'est ce dont la génération montante a besoin. Et donc, que devons-nous faire? Nous devons chacun faire ce que le Seigneur veut que nous fassions dans notre vie. J'espère que l'expérience suivante vous aidera dans votre réflexion et vos prières pour savoir ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Il y a de nombreuses années, à un moment très difficile de notre vie, je me suis senti assailli par l'adversaire. Au cours de cette expérience, le Seigneur m'a fait clairement comprendre que je devais faire plus et être meilleur. Je vais vous expliquer le contexte. Sue et moi étions mariés depuis plus de 30 ans. Nous étions pratiquants et engagés dans l'Église depuis toujours. Nous servions dans l'Église, nous allions au temple chaque semaine. Nous prions avec nos enfants, étudions les Écritures avec eux et faisions la soirée familiale. Nous essayons d'être de bons saints des derniers jours. Et pourtant, le Seigneur m'a dit, tu dois faire plus. Une nuit, j'ai fait un terrible cauchemar. Je me suis réveillé très inquiet et soucieux. Je me suis mis à genoux et j'ai prié mon Père Céleste de m'aider. Alors que je priais, un passage d'Éphésiens m'est venu à l'esprit, au chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au matin, j'ai repris l'écriture et lu ces mots. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand j'ai lu les mots « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », l'Esprit m'a témoigné avec puissance que c'était la réponse à ma prière. Je devais revêtir toutes les armes de Dieu, chacune d'entre elles. Alors, Sue et moi avons parlé de ce que cela signifiait et avons prié pour être guidés. J'ai appris que nous devions nous poser deux questions. Je crois que ce sont les questions dont les réponses nous conduiront à faire ce que nous devons pour nous préparer à ce qui nous attend. Les voici. Qu'est-ce que je fais et que je devrais cesser de faire? Et qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais faire? Quand nous avons posé ces questions dans la prière, nous avons reçu des réponses très précises. Nous avons changé notre manière d'utiliser notre temps, les médias que nous autorisions dans notre foyer, notre manière de servir au temple, notre manière d'étudier les Écritures et notre manière de servir le Seigneur. Et beaucoup d'autres choses. Nous devions accroître notre spiritualité. Par ce processus de repentir, le Seigneur Jésus-Christ nous a tendu la main et a changé notre vie. Nous avons senti sa miséricorde, sa grâce, son amour et son pouvoir. Par son pouvoir incomparable, il a changé notre cœur et notre esprit et nous a élevés vers lui. Je sais que si nous n'avions pas écouté, n'avions pas agi conformément à ce que nous avions reçu, je n'aurais pas été appelé à servir à l'Université Brigham Young Idaho, et je ne me tiendrais pas ici aujourd'hui devant vous. Ça a été un tournant de notre vie. Mes frères et sœurs, je sais que je parle à des saints des derniers jours fidèles qui respectent leurs alliances. Je sais que vous êtes très, très bons dans ce que vous faites. Pourtant, je sais de ma propre expérience que nous avons besoin de nous poser ces deux questions régulièrement. Nous devons changer et nous repentir, afin que l'expiation du Christ puisse opérer avec encore plus de puissance dans notre vie. Si nous le faisons, notre Père Céleste nous bénira en nous accordant un plus grand pouvoir spirituel. Je sais que c'est vrai, et je crois que c'est là toute la clé pour être à la hauteur des formidables possibilités et responsabilités qui nous attendent. Il y a beaucoup de choses pratiques que nous devrons faire. Nous devrons beaucoup réfléchir, planifier, œuvrer, tenir conseil et nous préparer pour faire de notre mieux. Mais ce sera le pouvoir du Saint-Esprit qui produira l'apprentissage profond et un plus grand discernement et le pouvoir rédempteur et fortifiant du Christ dans la vie de nos étudiants. Les jeunes de la génération montante ont besoin des vérités simples et pures de l'Évangile, enseignées et apprises avec un regain d'amour, avec un plus grand pouvoir spirituel et un impact plus grand dans leur vie. Je crois que l'impact se produira parce que l'Évangile de Jésus-Christ sera plus puissamment enraciné dans notre cœur et dans notre esprit, et parce que le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Notre vie reflétera plus pleinement et plus complètement les enseignements du Sauveur. Puis, quand nous administrerons nos programmes, les élaborerons ou mettrons en œuvre de nouvelles méthodes, embaucherons ou appellerons et formerons de nouveaux instructeurs ou conseillerons des étudiants ou planifierons de nouveaux bâtiments, ouvrirons une nouvelle interrégion ou entrerons dans une salle de classe pour instruire les enfants de Dieu, nous recevrons la révélation dont nous avons besoin et nous ferons l'œuvre avec l'amour pur du Christ par le pouvoir du Saint-Esprit. Les jeunes de la génération montante apprendront en profondeur. Ils s'élèveront. Nous savons que cela se fera. Nous savons comment tout cela se terminera. Le Seigneur Jésus-Christ viendra et son peuple et son Église seront prêts à le recevoir. Quand je pense à vous et à ce que vous faites dans le royaume de Dieu, je pense à cette magnifique expérience rapportée dans 3 Néphi chapitre 17, où le Sauveur rassemble les enfants autour de lui. Je veux que vous visualisiez cette scène dans votre esprit parce que vous en faites partie. Les parents amènent leurs précieux enfants au Sauveur. Il les rassemble autour de lui. Il est au centre. Il prie pour eux et leurs parents de manière miraculeuse et il bénit les enfants un par un. Puis des anges descendent du ciel comme au milieu d'un feu et servent les enfants. Et ce feu sacré environne les enfants. Dans un sens puissant, c'est ce que nous faisons au séminaire et à l'institut. En fait, c'est le département d'éducation de l'Église. Les parents nous amènent leurs enfants. Le Sauveur est au centre, le cœur de tout ce qui arrive aux enfants. Il prie pour eux et pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Nous sommes les anges. Vous êtes les anges qui viennent servir ces enfants dans le feu sacré, comme l'a dit Sœur McConkie. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que nous devons être. Et c'est ce que nous serons, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il est notre Père. Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Il vit. Je rends témoignage de son saint nom. Je l'ai vu œuvrer. Je connais sa miséricorde et sa grâce, et je ressens son amour. Il a tout pouvoir pour nous purifier du péché, changer notre cœur, nous élever et nous fortifier pour que nous devenions tout ce qu'il veut que nous soyons. Je sais que si nous nous tournons vers le Christ, qui se tient les bras toujours tendus vers nous, il nous bénira pour que nous soyons meilleurs et fassions plus cette œuvre sainte qui est la sienne. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our most gracious Father in heaven,
très bon Père céleste, nous adressons à toi à la fin de cette magnifique réunion des séminaires et des instituts. Pour les instructeurs et les éducateurs de religion, nous venons du monde entier et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir été ici aujourd'hui parce que nous avons été abondamment nourris. Nous te demandons, Père céleste, de nous accorder ton esprit pour qu'il nous rappelle toutes les choses magnifiques et importantes que nos dirigeants nous ont enseignées aujourd'hui. Nous te demandons, Père céleste, de faire que nous soyons plus sûrs dans notre connaissance de l'Évangile et des Écritures, et que nous fassions tout par amour, et que nous soyons guidés par cet amour, afin de savoir ce que nous comment enseigner, instruire tous les enfants dont nous sommes chargés. Nous sommes reconnaissants de la possibilité qui a été la nôtre et l'honneur qui est le nôtre d'enseigner l'Évangile. Quel grand honneur c'est. Nous te demandons d'être avec nous cette année. Dans nos efforts pour instruire l'Évangile, la génération montante. C'est là notre prière humble au nom de Jésus-Christ. Amen.